Bonjour, c'est Anne-Christine du blog Chemin de naissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypersensibilité, d'hyperémotivité quand on est enceinte. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir Élodie Crépel. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Élodie, merci d'être là. Merci d'avoir répondu avec enthousiasme à ma proposition d'échange sur cette thématique qui nous tient toutes les deux à cœur. Alors Élodie, tu es spécialiste de l'hypersensibilité et de la douance. Tu es autrice, tu es conférencière, tu accompagnes les hauts potentiels et les hypersensibles à faire de leurs caractéristiques une force positive dans leur quotidien. Et j'ai souhaité faire appel à toi, à la fois pour cette grande expertise et aussi pour ton expérience de maternité en tant que maman hypersensible. Alors, tout d'abord, Élodie, est-ce que tu pourrais nous dire finalement ce que c'est que l'hypersensibilité et quelle différence il y a avec l'hyperémotivité?
D'accord. Déjà, merci beaucoup Anne-Christine de cette invitation. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que déjà, on en parle peu. Mais c'est vraiment dommage parce que l'hypersensibilité, du moins la sensibilité élevée, comme on va l'appeler petit à petit, on essaye avec Saverio Thomasella, de changer un peu les termes. Ça concerne quand même jusqu'à 30% de la population, hommes et femmes confondus. Il y a autant d'hommes que de femmes. Donc forcément, eh bien, si ça concerne 30%, donc c'est qu'un ça concerne, allez, on va dire une femme sur trois. Et donc, potentiellement, cette femme-là, un jour, va vouloir faire un enfant, va tomber enceinte. Et donc, ça va forcément impacter aussi sa grossesse et aussi sa maternité. Donc, je suis très, très contente aujourd'hui, Anne-Christine, que tu m'interroges sur ce sujet.
Merci à toi.
Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que dans l'hypersensibilité, en réalité, il y a deux grandes choses. Il y a l'hyperesthésie et l'hyperémotivité. On parle souvent de l'hyperémotivité parce qu'on est dans une société plutôt hyposensible qui va mettre en avant, en fait, le fait de gérer ses émotions. Dans gérer, il y a quoi finalement? Il y a cette idée de canaliser, de contrôler. Sinon, très vite, eh bien, on va passer pour quelqu'un avec une grande immaturité émotionnelle et on va être pointé du doigt en se disant qu'on a forcément un problème et qu'on va devoir résoudre ce problème parce que il n'est pas publiquement admis dans la société d'avoir des grandes émotions et encore plus de les montrer. Donc, les personnes hyper émotives, bien souvent, elles se disent qu'elles ont un problème. Mais ça ne fait pas forcément d'elles des personnes hypersensibles. Parce que, comme je te le disais, tu vois, il y a aussi l'hyperesthésie. Et l'hyperesthésie, qu'est-ce que c'est? C'est avoir plusieurs de nos sens, donc on en a cinq, qui va être surdéveloppé. Donc, ça peut être la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou le toucher. Et ça peut générer effectivement certaines difficultés au quotidien. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte. Par exemple, toute la journée, tu travailles dans un bureau avec plusieurs personnes en open space. Ça fait du bruit, tout ça, mais tu vas prendre sur toi parce que de toute façon, tu te dis que tu n'as pas forcément le choix, c'est comme ça. Puis bon, puis finalement, tu te dis que tu gères plutôt bien la situation. Mais arrive le soir, ça génère une grande fatigue et tu vas manquer de patience, tu vas manquer de bienveillance, tu vas plus facilement t'agacer auprès de ton conjoint, de ta conjointe ou de tes enfants. Et tu vas juste te dire que tu as un souci, encore une fois, et que c'est parce que tu n'es pas assez bienveillante, tu n'es pas assez patiente. Alors que peut-être, tout simplement, tu aurais été moins fatiguée parce que moins stimulée et surstimulée, en fait, au niveau de tes sens toute la journée, peut-être que en soirée, tu ne serais pas autant fatiguée. Mais on ne fait pas toujours le lien, tu vois. Moi, par exemple, un exemple très personnel, moi, c'est au niveau de la vue. J'ai besoin que ça soit très épuré autour de moi. Mais je m'en suis rendu compte que lorsque je suis devenue minimaliste. Je me suis dit, waouh, c'est dingue en fait. Je me sens d'un coup tellement plus légère dans ma vie, tellement mieux. Et en fait, c'est parce que visuellement, j'ai vraiment besoin que ça soit très épuré. Sinon, très vite, en fait, j'ai réalisé que je me sentais un peu écrasée. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut apprendre à connaître sur soi pour se sentir mieux. Donc, vraiment, l'hypersensibilité, il y a ces deux grands pans, donc l'hyperesthésie et l'hyperémotivité.
Ça veut dire qu'une femme qui est enceinte et qui est hypersensible, est-ce que ça lui demande plus d'efforts en termes de charge émotionnelle qu'une grossesse d'une femme qui n'est pas hypersensible?
Totalement, c'est ce qu'on repère. Alors après, j'aime pas les généralités et le but, c'est pas forcément d'en faire, mais cependant, il est vrai que beaucoup de femmes liées aux hormones déclarent. Alors déjà, c'est quelque chose que tu vois, on va mettre beaucoup en avant tu vois, dans les films, dans les séries, ce côté de la femme enceinte qui va pleurer, qui va déverser des larmes et des larmes, des litres de larmes, tu vois, juste en regardant, je sais pas, un chien traverser, enfin, tu vois, voilà. On en fait des blagues. Et il est vrai que les hormones nous rendent plus sensibles. Donc, forcément, quand déjà on a une grande hyperactivité, eh bien, on peut se dire, mais je deviens folle, qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens dépressive, qu'est-ce qui se passe? Et moi-même, tu vois, pour ma première grossesse, ce sont des questions auxquelles je me suis confrontée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans un état comme ça? Pourquoi j'ai du mal à rebondir aussi facilement que d'habitude? Pourquoi j'ai pas, voilà, mon énergie, mon optimisme de d'habitude? Je me suis beaucoup questionnée et personne ne pouvait y répondre, en fait. Et quand tu vas voir des thérapeutes qui ne sont pas spécialisés ou sensibilisés à ce sujet, bah en fait, ils peuvent poser des diagnostics terribles dessus, tu vois.
Oui, du type donc, dépression, ça, par exemple.
Oui, dépression, mais il y a aussi bipolarité. Le nombre d'hypersensibles qui ont été détectés comme bipolaires alors qu'ils ne le sont pas du tout, il y en a énormément. Donc, voilà, il faut vraiment se dire, attends, est-ce que d'habitude, je suis comme ça? Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bipolaire ou faire une dépression, hein, on est d'accord. Mais c'est là où c'est intéressant. Tu vois, quand on parle d'hyper-émotivité, on peut tous et toutes, au-delà de l'hypersensibilité, être un jour hyper-émotif. Par exemple, face à un deuil, face à un trauma, quelque chose qui se passe dans ta vie où c'est compliqué, eh bien forcément que tu vas être hyper-émotif, c'est-à-dire avoir des émotions plus fortes, plus intenses, plus denses que la plupart que les autres journées. Et ça peut durer. Hein, tu vois, le temps, par exemple, le temps de faire son deuil. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un d'hypersensible. La grossesse, on va dire que eh bien, certaines femmes vont se dire « mais c'est ça, je suis hypersensible ». Non, parce que si ça dure le temps de la grossesse, puis après, alors ça s'en va, c'est pas juste après l'accouchement que ça s'en va. Hein. Je pense que ça, tu pourras y répondre mieux que moi, comment ça fonctionne au niveau des hormones. Puis en plus, s'il y a l'allaitement, tout ça, mais voilà, c'est pas du jour au lendemain que ça arrive, que ça disparaît. Mais si c'est juste dans cette période-là, non, ça ne fait pas d'une femme une hypersensible.
Parce qu'à ce moment-là, cependant, c'est lié à de la physiologie, en fait. C'est lié à un système hormonal et ça disparaît, en fait, en même temps que
les... Oui, exactement. On se rend compte que c'est progressif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve... Mais c'est comme en tant qu'hypersensible. On va se rendre compte... D'ailleurs, c'est souvent les premiers signes. Hein. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'hypersensibles, des femmes hypersensibles qui vont dire « je savais que j'étais enceinte parce que, par exemple, ben, voilà, je me sentais beaucoup plus sensible ». Alors, sensible, ça ne veut pas dire fragile. On peut très bien se sentir très forte, très puissante lorsqu'on est enceinte, hein, en tant qu'hypersensible. Mais il y a ce côté de plus sensible à tout, aux changements de climat, aux odeurs, aux goûts. J'étais vraiment encore plus connectée au monde. Il y en a beaucoup qui vont dire ça. Et petit à petit, elles vont se retrouver au fur et à mesure que le bébé grandit. Alors, on ne sait pas expliquer le pourquoi du comment. Souvent, on me pose la question, mais scientifiquement, comment tu l'expliques? Ça, c'est comme un peu, tu vois, le miracle de la vie. Pourquoi, à un moment donné, tu accouches à telle date? Tu vois, tout ce qui entoure finalement tout ce miracle au niveau de faire un enfant, de mettre un enfant. Beaucoup d'hypothèses vont dans le sens où c'est justement pour être encore plus attentive aux besoins de notre enfant, encore plus connectée aux besoins de notre enfant. Et donc, pour... Au fur et à mesure qu'il grandit, on a un peu moins besoin de cette hyperconnexion, de cette fusion. Et donc, on perd tous ces sens-là.
D'accord. Alors, est-ce que tu aurais des pistes à conseiller aux femmes qui nous écoutent pour vivre une grossesse plus sereine, je vais dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, peut-être moins dans les montagnes russes.
Oui, oui, totalement. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est justement le savoir. Avoir cette connaissance de soi, ça tranquillise l'esprit. Parce qu'on arrête de se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Il n'y a rien qui ne va pas chez ces femmes-là. C'est normal, c'est bien fait. Parfois, cette sursollicitation au niveau des sens et des émotions permet aussi de lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a tellement trop qu'on est obligé de prioriser. On est obligé de se dire, bon, mais en fait, ma priorité, c'est peut-être ma grossesse. C'est peut-être ce bébé-là qui grandit. Et beaucoup de femmes en témoignent parce que c'est pas rare, par exemple, qu'elles vont devoir peut-être être mises en arrêt plus tôt. Ça arrive souvent. Mais c'est une façon aussi, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on veut tout faire très vite et on en oublie un petit peu cette physiologie de la grossesse, à quel point c'est quelque chose d'important. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut être alité pendant 9 mois, absolument pas. Mais c'est quand même une période de notre vie très particulière. Et quand on est hypersensible, on va être encore plus sollicité du coup par rapport à nos sens et à nos émotions. Et c'est un moyen aussi de se dire, bah, ma priorité, c'est peut-être ça. C'est peut-être justement cette connexion avec mon bébé ou juste avec mon corps. Peut-être que ça me renvoie aussi à mon corps, à qui je suis. Et je peux peut-être profiter de cette période-là pour m'apporter du bien, pour m'apporter des choses positives et un certain bien-être.
Complètement. Alors moi, j'ai une petite pensée pour toutes ces femmes qui sont alitées.
Ouais.
Et en général, elles prennent la nouvelle plutôt mal, en se disant,
bah, oui.
Qu'est-ce que je vais faire ? Moi qui suis tout le temps super active, qui fais plein de choses. Et en fait, je pense que tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir ce moment-là comme justement une période d'intériorité, de connaissance de soi, de retour à son corps. Et un grand moment d'écoute envers son bébé aussi, de connexion.
C'est ça. Et, ben et d'ailleurs, je suis sûre que tu as peut-être remarqué, mais en général, les femmes qui sont alitées, ce sont souvent les femmes les plus actives.
Oui, complètement.
Comme quoi, rien n'arrive pour rien. C'est qu'à un moment donné, eh bien, le corps, il dit, mais en fait, stop. Stop, c'est juste stop. Et moi, je me dis que c'est une chance à ce moment-là aussi d'être hypersensible parce que c'est une période de notre vie où on va pouvoir encore plus prendre soin de nos hyperesthésies, de notre hyper-émotivité. Et il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui réalisent leur hypersensibilité à ce moment-là parce que la vie leur offre cette possibilité-là. Donc, avoir cette connaissance de soi, c'est une puissance et un pouvoir pour le après. Parce que après, ça ne disparaît pas. C'est juste, en fait, plus temporisé. Et puis, en fait, comme l'hypersensibilité est de naissance, parfois, on ne s'en aperçoit pas forcément. Parce qu'on est fait, on est calibré pour être hypersensible dans ce monde. Donc, on met en place des choses, des astuces, des solutions pour vivre en fait dans ce monde avec notre propre hypersensibilité.
Oui, on peut mettre des carapaces qui du coup nous empêchent en fait d'accéder à cette part profonde de nous.
Totalement, surtout si depuis tout jeune, on a ressenti qu'on était trop, qu'on en faisait trop, que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ce côté, mais arrête de prendre tout au sérieux, mais enfin, pourquoi tu prends la mouche pour ça, mais enfin, lâche prise, enfin, voilà. Donc, à un moment donné, on va se suradapter à ce qu'on nous demande. Et du coup, il peut y avoir cette explosion-là. Donc, ne pas hésiter aussi à demander de l'aide, avoir un thérapeute qui est spécialisé dans ces, ou se faire accompagner par une doula, justement, qui est sensible à ce sujet-là. Dans cette période qui est très, 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 où on est très vulnérable, ça peut, c'est très important. Encore plus. Et c'est pas, et je le redis, c'est vrai que c'est facile de dire ça, mais je pense que c'est très important de planter cette graine-là. Demander de l'aide ou du soutien à ce moment-là, ça ne nous rend pas plus fragiles, ça nous rend plus forts.
Au contraire.
Parce que ça veut dire qu'on a une bonne connaissance de soi. Ça veut dire qu'on sait, en fait, où sont nos limites et qu'on a la capacité de demander de l'aide quand on les a dépassées, ou même avant d'ailleurs. Et ça, c'est juste incroyable. Tout le monde n'a pas cette capacité et donc tout le monde se suradapte et on en arrive justement parfois à des personnes qui sont très, très malheureuses dans leur vie.
Oui, complètement. Alors là, on a vu la période de la grossesse. Après, pour l'accouchement, je me demandais du coup si cette hyperesthésie fait que les femmes hypersensibles appréhendent plus la douleur de l'accouchement que les autres.
Oui. C'est une très grande crainte et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en disant, alors on entend souvent ces femmes-là dire « Ah non, mais moi, je suis douillette. » Alors déjà, bah, ça n'a absolument rien à voir. Je tiens à le dire parce que, je pense que tu sensibilises les mamans que tu accompagnes, mais cette distinction entre douleur et souffrance, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que vraiment, la douleur, elle est physique, mais la souffrance, elle est psychique. Et c'est quand même pas pareil que quelqu'un, je sais pas, vous tire les cheveux par exemple et ça vous fait mal, parce que c'est normal. C'est, en fait, quelqu'un tire les cheveux, même si c'est par exemple le bébé qui joue avec vos cheveux. Voilà. Mais je pense à ça en tant que maman, quand on a les cheveux détachés, hein, il tire dessus. Donc oui, ça fait mal, mais ça fait pas forcément de vous quelqu'un douillé. Et puis l'accouchement, c'est quand même très particulier, puisqu'en fait, c'est vraiment, on va rencontrer. Au-delà du ventre, notre bébé, en fait, hein, c'est un moment de rencontre, un moment magique. Et en fait, la façon dont on va percevoir l'accouchement, et c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on perçoit l'accouchement comme dangereux encore,
beaucoup.
Et ça va impacter notre façon d'appréhender la douleur. Parce que très vite, comme c'est quand même une douleur très puissante, hein, le fait d'accoucher, moi-même, voilà, j'ai eu 3 accouchements et physiologiques, donc c'est quand même très puissant. Très, très fort. Et puis, c'est pas une sensation qu'on ressent dans la vie de tous les jours. Et puis, on n'est pas préparé à ça. Même s'il y a des cours de préparation à l'accouchement, ce ressenti interne de notre corps qui s'ouvre c'est quand même très, très, très puissant. Et donc, on peut vite s'inquiéter. Et si on rajoute des inquiétudes dessus, ben, c'est pas la douleur dont on craint, c'est la souffrance. C'est se dire, est-ce que c'est normal que je ressente ça? Oh, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que tout va bien? Parce que c'est vraiment incroyablement douloureux. Donc, du coup, il y a toute cette préparation. Mais on se rend compte que les femmes hypersensibles, elles ont cette capacité incroyable de se mettre dans leur monde. Parce que l'hypersensibilité, c'est aussi des personnes qui ont cette introspection naturelle, qui savent aussi, si elles savent s'écouter, quand elles ont besoin de silence, quand elles ont besoin qu'on les masse ou qu'on ne les touche pas, qu'on leur parle ou qu'on ne leur parle pas. Et plus on est connecté à nos besoins, et plus lors de l'accouchement, en fait, on ne va pas forcément plus en souffrir. En tout cas, aujourd'hui, de tout ce qu'on remarque, non, les femmes hypersensibles ne souffrent pas plus de l'accouchement que les autres.
Je dirais même que cette intensité de l'accouchement, elles peuvent le vivre aussi comme un guide, en fait, pour leur enfantement.
Totalement, exactement. C'est exactement ça, parce que voilà, si elles ont une bonne connaissance d'elles-mêmes, si aussi elles ont été accompagnées dans ce sens, hein, ben c'est important, tout l'accompagnement que la femme va avoir pendant toute sa grossesse, avec la confiance qu'elle peut avoir dans son corps, dans ses capacités, dans ses besoins aussi. Avoir cette confiance de se dire, mais en fait, je vais savoir de quoi j'ai besoin au bon moment, je le sais.
Tu eh bien, de cette préparation entre guillemets là, et aujourd'hui il y a, on va dire, deux grandes écoles sur la physiologie. Il y a ceux qui pensent que en effet l'accouchement c'est quelque chose de tout à fait naturel et du coup la femme a ça en elle et il n'y a pas besoin de préparer quoi que ce soit. Et sur le principe, je suis assez d'accord. Mais moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie qui dit qu'en effet c'est hyper naturel et la femme a tout ce qu'il faut en elle, sauf qu'on a été tellement coupé de notre corps, de nos émotions, de nos ressentis, qu'il faut qu'on réapprenne tout ça. Et la grossesse, c'est un moment exceptionnel pour se reconnecter à ça.
C'est pas pour rien que ça doit durer 9 mois, même si ça peut paraître très long, surtout vers la fin pour certaines. Mais c'est ça. C'est-à-dire que culturellement, on le regarde dans les films. Alors, les films, c'est vraiment...
c'est la caricature.
Voilà. C'est l'accouchement dans les films, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est hyper anxiogène. Alors déjà, elle perd les os d'un coup, mais il faut vite, vite. Alors, il y a ce côté d'urgence, tu sais. Tu sens bien que, oh là là, alors qu'en fait, ça prend des heures en général. Alors, bien sûr, les accouchements plus rapides existent, mais je veux dire, on a l'impression que tout est une urgence parce que tout peut être dramatique. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, quand même.
Et puis, dans le film, elle ne peut pas accoucher seule.
Ah non, ah oui, ah, c'est ça. Et puis, on félicite le médecin. Alors ça, moi, je trouve ça horrible. Genre, oh merci, docteur. Mais rien du tout. Il a rien fait. Mais alors, c'est vrai que la femme n'est plus du tout au centre. C'est-à-dire qu'elle elle est passive. Et ça, c'est terrible parce qu'on ne peut pas avoir confiance en soi. On se dit que sans quelqu'un qui est là pour nous aider, on ne peut pas le faire. Alors, comme toi, j'ai quand même cette sensation de me dire, mais il faut quand même accompagner, il faut quand même... en fait, il faut rééduquer d'une certaine manière nos esprits à comprendre ce que c'est un accouchement. Enfin, moi, je préfère parler presque d'enfantement, en fait, que d'accouchement. Mais c'est vrai que c'est très, très particulier et on nous a, d'une certaine manière, coupé de nos sensations physiques. Souvent, quand on parle d'émotion, tu vois, quand on parle d'hyper-émotivité, je dis souvent aux personnes, n'oubliez pas qu'avant de ressentir votre émotion, parce qu'elle est intellectualisée, dès que c'est une émotion, c'est que je l'intellectualise, c'est que je me dis, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis en colère, donc là, je suis dans la tête. Mais avant ça, il y a une sensation. Il y a une sensation corporelle. La peur, il y a une sensation. Nos poils s'irisent, par exemple. Il se passe plein de choses dans notre corps, sauf que on voit pas forcément les signes. Et c'est normal, je veux dire, voilà, au quotidien, en train de travailler, on ne peut pas être toujours connecté à son corps. Mais la grossesse permet quand même cette reconnexion à son corps, qui est indispensable. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant trop longtemps, se sont coupées de leurs sensations physiques. Et donc, ça devient trop douloureux de se reconnecter à ce moment-là. D'où l'accompagnement pendant la grossesse qui est indispensable.
Complètement. Ok. Alors, Élodie, j'aimerais qu'on termine au-delà de la grossesse et de l'accouchement sur la parentalité. Comment, quand on est une femme hypersensible, on peut se préparer à gérer à la fois ses propres émotions et à la fois celle de son bébé, que ce soit un bébé aux besoins intenses ou pas.
Alors justement, bon, déjà parfois les chiens ne font pas les chats, même si aujourd'hui on n'a pas de, on a pas d'études scientifiques sur le sujet. On remarque juste que bien beaucoup de parents hypersensibles font des enfants hypersensibles. Alors Quid de l'inné et de l'acquis? Est-ce que c'est parce que dans l'environnement, on laisse plus de place? Ah, je ne saurais pas dire. Voilà. Mais dans les faits, c'est quelque chose que l'on remarque. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne vais pas parler de gérer. Et ce terme, pour moi, il est important parce qu'on va plutôt parler d'accompagner et d'accueillir ses émotions, de vivre ses émotions. Et ça, ça fait toute la différence parce que justement, c'est en voulant gérer ses émotions et celles de son bébé que là, ben, en fait, on va se sentir incapable, qu'on va se dire qu'on a un problème, qu'on n'y arrive pas, qu'on va se sentir dépassé, surpassé et qu'on peut même terminer en burn-out. Mmh. Et le bébé, et c'est ça qui est incroyable, tu vois, c'est que on peut pas gérer les émotions de son bébé et que ça nous renvoie justement à ça. Si toute sa vie, on a tenté de gérer ses émotions, une fois qu'on a un bébé, eh ben là, c'est l'explosion. Parce que ça fonctionne pas. Parce que ben, le bébé, justement, il va pas se laisser faire. Et merci au bébé de ne pas se laisser faire. Enfin, dans un premier temps, après, bien sûr, on peut tout... voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui est génial. Encore une fois, je dis souvent aux parents qui ont des babies, parce que moi-même, j'en ai, et c'est très intense. Et je sais à quel point, parfois, mais c'est humain, hein, de se dire, franchement, j'aimerais juste avoir un bouton pause. Tu vois, c'est tellement humain. Il est où, ce bouton pause? C'est ça. Mais du coup, je me dis, c'est encore une fois, on peut le voir comme un apprentissage. Alors, bien sûr, je suis d'accord que, humainement parlant, c'est épuisant et devoir faire ça seul, c'est juste pas possible. Je passe juste un petit message pour toutes les femmes qui se sentent vraiment seules dans leur parentalité. Vous ne pouvez pas faire ça seule. C'est pas pour rien qu'il faut être au moins deux pour faire un enfant. C'est parce que c'est très, très difficile d'accompagner toutes les émotions d'un bébé, d'un enfant. C'est extrêmement épuisant et il faut demander de l'aide et il faut passer le relais. Et non, ça ne fait pas de vous une mauvaise mère ou une moins bonne mère. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on a un baby, eh bien, on ne se sent pas compris et on se sent jugé par les parents ou par les professionnels qui ne connaissent pas du tout les babys. Donc, le baby, bébé aux besoins d'attention. Oui. Et ça, c'est terrible parce que moi, j'ai souvent des témoignages de personnes qui me disent bah, je faisais partie de ces parents qui jugeaient en disant mais, je sais pas, elle doit pas bien de s'en occuper. Et le jour où j'ai eu un baby, j'ai compris. Et c'est vrai qu'il n'y a que ceux qui ont connu ça qui comprennent.
Ils comprennent, ouais, complètement.
Ouais. Et ça peut être très douloureux hein, quand on est au fond du trou, qu'on est épuisé et qu'on se prend ce genre de remarques, ou bien encore une fois, ces professionnels qui, parce que bah, malheureusement, c'est hors champ de leurs compétences, qui vont se dire encore, tu sais, ce côté, c'est la faute de la mère, dire bah oui, bah, en fait, votre bébé il ressent votre stress et votre fatigue. J'ai envie de dire bah oui, mais c'est un cercle vicieux parce que moi aussi, j'aimerais ne pas être stressée, fatiguée. Non, mais ça, c'est vraiment terrible. C'est enfoncer la tête sous l'eau à une maman de lui dire ça. Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment, volontairement, elle est fatiguée et stressée? Non. Alors, à quoi bon lui dire que si son bébé est comme ça, c'est, enfin, je veux dire, ça ne sert à rien, quoi. Donc, je suis juste professionnelle.
Par contre, on peut peut-être lui dire, en effet, que son hypersensibilité, bah, ça la rend plus empathique. Et du coup, ça améliore aussi la compréhension de son enfant.
Totalement. Alors, ouais. C'est ça. C'est-à-dire oui, qu'en fait…
Là-dessus aussi, en faire une force, même si c'est épuisant, en faire une force.
C'est ça. C'est-à-dire que ça va être souvent des mères, justement, qui vont se surinvestir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont encore plus connectées aux besoins de leurs petits. Mmh. Elles savent. Elles ressentent quand il a faim, quand ce n'est pas ça, tout ça. Alors, des fois, on manque de confiance. On se dit, surtout quand c'est le premier, on se dit, bon, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose ? Donc, dans ce cas-là, aller consulter, bien évidemment. Mais c'est souvent, effectivement, des mères qui vont être très connectées aux besoins de leurs enfants. Et eh bien, comme un enfant, elle ressent qu'il peut, en fait, il a la place de s'exprimer. Il sent qu'on va l'écouter, que ça va être entendu, bah, il va s'exprimer encore plus. J'ai envie de dire, tenez bon, ne vous inquiétez pas, ça passe. Mais ça va en plus générer un vrai lien de confiance entre la maman et son bébé. Ça, c'est juste incroyable. Même si c'est épuisant, on se rend compte que ça va être ces enfants-là parce qu'ils se sont sentis écoutés, entendus. Parce qu'un enfant, il n'a que des cris, hein, il n'a que ses pleurs pour s'exprimer. Donc, ce n'est pas toujours facile de le comprendre. Ces mamans-là, elles le sentent. Elles le sentent. Et du coup, on se rend compte que très vite, ça va être des enfants qui vont avoir confiance en nous. De plus en plus vite. Et qui vont être plus autonomes émotionnellement. Même si, dans un premier temps, les premières années, on ne le voit pas, c'est pas rare que... on a des témoignages comme ça, des mamans disent bah, vraiment, autour de 5-6 ans, c'est incroyable. En fait, par rapport aux autres enfants, je me rends compte que le mien, il arrive à mettre des mots sur ses émotions, il arrive à se calmer beaucoup plus rapidement, il arrive à trouver par lui-même des solutions pour s'apaiser, il est très réceptif à mes émotions aussi à moi, donc du coup, ça se passe beaucoup mieux dans le quotidien. Enfin, voilà, c'est juste extraordinaire dans ce moment-là. Mais par contre, Voilà, là, pour reprendre ta question, je pense que le mieux, c'est de ne pas gérer, de demander du soutien, d'être attentive aussi à ses propres besoins, à ses propres émotions, et de ne pas avoir peur de les exprimer, en disant, ben voilà, là, c'est vrai que je suis triste, je ne sais pas comment faire, je me sens dépassée, je me sens épuisée. De pouvoir l'exprimer, en fait, c'est déjà la première étape pour pouvoir y répondre.
C'est déjà beaucoup.
Bah oui, ouais. Je pense que beaucoup, beaucoup, on n'ose pas. Déjà, y a, tu sais, il y a ce côté de pour être une bonne maman, il faut se sacrifier. Non, pour être une bonne maman, il faut être déjà bien en soi.
Exactement, oui. Écoute, Élodie, merci beaucoup pour toutes ces connaissances que tu nous as apportées.
Avec plaisir.
Et puis aussi pour transformer notre vision de l'hypersensibilité qu'on peut souvent percevoir comme quelque chose de tellement intense à vivre au quotidien que ça en est difficile. Mais voilà, dans tout ce que tu nous as dit, on a vu aussi que ben, ça pouvait être une force incroyable pour être en lien avec notre bébé.
C'est un cadeau pour soi et pour le monde, hein, la sensibilité élevée, vraiment, vraiment. Parce que déjà, ça va, en fait, on est en train de promouvoir que la vulnérabilité est quelque chose de positif. Et vraiment, l'humanité en a besoin. Le monde a besoin d'hypersensibles. Et il a besoin que les hypersensibles ne se cachent plus, s'expriment. Après, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas adhérer, laissons-les, et font leur vie. Mais de toute façon, c'est toujours plus agréable d'être soi et de se sentir soi, de se sentir accepté, légitimé et aimé pour qui on est. Et ça, c'est possible seulement si ben, on sort de l'ombre, en fait. Et petit à petit, on se rend compte. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime le plus quand vous allez entendre des artistes chanter, danser, tout ça. C'est cette vulnérabilité, c'est cette fraîcheur, c'est cette tendresse, cette sensibilité. C'est ça qui nous touche en plein cœur quand on va voir un film, qu'on va écouter une musique, qu'on va lire un livre. Tout le monde recherche ça. Tout le monde recherche finalement les émotions tout le temps. Et pour autant, ben, on a l'impression qu'il faut quand même les gérer soi. C'est quand même très contradictoire. On aurait moins besoin de chercher à l'extérieur si on les vivait à l'intérieur.
Complètement. C'est ce qui fait notre humanité.
Totalement.
Merci beaucoup, Élodie, pour tous ces jolis mots et ces belles connaissances. Et puis, au plaisir d'une prochaine rencontre.
Mais oui, avec plaisir. Avec plaisir.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.